Bonjour Tiffaine, l'écho continue demain et moi je vous donne rendez-vous dès lundi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, la compagnie des auteurs, épisode 4 aujourd'hui avec le dernier numéro de notre cycle Albert Cohen. Albert Cohen, dont la vie a été marquée par le départ forcé de sa famille de Corfou pour Marseille quand il était un petit enfant, pour fuir le climat antisémite qui régnait alors sur l'île. Il revivra une fois en France ce qu'il appellera un tout petit pogrom avec l'épisode de ce camelot qu'il avait copieusement injurié sur ses origines, comme nous l'avons entendu lundi au cours de notre épisode biographique. C'était avec Maxime Decoux. Mardi, avec Philippe Zarre, nous nous sommes arrêtés sur le cycle Solal et les Solals, œuvre monumentale que Cohen a passé toute sa vie ou presque à écrire et qui reparaît aujourd'hui dans la collection Quarto des éditions Gallimard. Enfin hier, c'est sur Belle du Seigneur que nous nous sommes penchés, cette fois avec le chercheur Alain Schaffner, qui nous a parlé de ce livre qui met en scène la passion amoureuse pour mieux la remettre en cause. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler de la partie autobiographique des œuvres d'Albert Cohen, nous sommes en compagnie d'Anne-Marie Jaton, professeure de littérature française à l'université de Pise et auteure de l'essai Albert Cohen, le mariage miraculé des contraires, aux presses polytechniques et universitaires romandes dans la collection Le Savoir Suisse. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Oh, il y a un mot de Gustave Mahler qui me plaît. L'artiste est un archer qui tire dans le noir. Je reviens toujours à ça, c'est un rêve. Tous mes livres ont été des rêves. Sauf le livre de ma mère. Ça, parce que vraiment, ça, je savais, il y avait un modèle. Ah, puis aussi le petit dernier, là, où vous, frères humains, parce que je raconte ce qui m'est arrivé. Et ce sont des choses vraies. Ce sont des... Ces deux livres intimes, alors c'est autre chose. Mais tout le reste, c'est rêvé.
Bonjour Anne-Marie Jaton.
Bonjour.
Alors tous les romans de Cohen sont des rêves, dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, bien sûr. Enfin, il y a du rêve, il y a beaucoup de rêves à l'intérieur de ces romans. Il y a beaucoup de fantaisie, d'invention, d'imaginaire. Mais ce sont des romans qui sont plutôt dans la... disons qu'on peut considérer comme des romans réalistes, enfin qui se penchent sur de façon fantaisiste, satirique, humoristique, sur par exemple d'abord la passion qui nous concerne tous, et sur les organismes internationaux, sur le travail. Enfin, ce sont des...
Alors pourquoi parle-t-il de rêve? Pourquoi dit-il « tous mes livres sont des rêves » ?
Parce qu'il a beaucoup inventé, parce qu'il a fait proliférer les choses, parce qu'il a donné une... C'est pas un écrivain réaliste au sens propre, c'est un écrivain qui augmente, qui litanise, en quelque sorte, comme disait Zaria.
Est-ce que ça peut pas être aussi des rêves de la vie qu'il aurait rêvé d'avoir lui-même ?
Aussi, certainement, oui, c'est vrai. Il y a une projection sur la gloire, sur l'importance, sur la beauté, bien sûr, dans ce sens-là, c'est tout à fait vrai. Mais c'est réducteur. Enfin, si on imagine, si on entrait dans Belle du Seigneur ou dans Solal simplement comme dans un rêve, je crois qu'on perdrait une bonne partie de leur sens.
Et alors, dans les livres du mois dont on va parler aujourd'hui, est-ce que on peut parler aussi d'une littérature de rêve qui serait la rêverie un peu nostalgique autour de l'enfance, en ce qui concerne par exemple le livre de ma mère, Anne-Marie Jaton?
Oui, alors dans le cas des œuvres qu'on appelle les œuvres autobiographiques, c'est-à-dire la trilogie, justement le livre de ma mère et les deux autres.
Aux vous frères humains, écarnés 1978.
Oui, exactement. Dans les trois, on a en fait, c'est pas vraiment une œuvre autobiographique au sens traditionnel du terme. Si on prend par exemple l'autographie de Simone de Beauvoir, elle commence à sa naissance et ça continue de façon
linéaire.
Linéaire, justement. Bon. Alors c'est jamais le cas dans les œuvres dites autobiographiques de Cohen, qui sont en fait des fixations sur des thèmes et des moments de son existence. Alors la mère et l'enfance dans le livre de ma mère, c'est ma mère, la mère bien sûr, qui est l'élément essentiel, mais en même temps l'enfance. Le deuxième, c'est le traumatisme déjà évoqué de la découverte de l'antisémitisme. Donc le premier, c'est le livre du bonheur, si on veut, et le second, c'est le livre du malheur, en simplifiant bien sûr. Et le troisième, c'est le livre de la mort, qui est un thème constant dans l'œuvre, depuis le livre de ma mère, en passant par « Vos frères humains », mais là, c'est vraiment l'approche de la mort et la réflexion sur le sens de la vie, puisque nous sommes tous destinés à mourir et puisque le bois de notre cercueil est déjà dans les forêts.
Donc, la mère, le traumatisme, le rapport à la persécution des Juifs et la mort, finalement, c'est à cela que se résumerait la vie d'Albert Cohen pour Albert Cohen. C'est comme s'il y avait une impossibilité chez lui à raconter le reste, c'est-à-dire à faire réellement une autobiographie à Marie Jaton.
Peut-être qu'il n'en avait pas l'intention. Il était proustien dans ce sens-là. Enfin, il disait que ce qui compte, c'est le livre, c'est pas l'existence. Ce sont pas les petits événements quotidiens. Et par conséquent, il avait aucune intention de nous en donner. D'ailleurs, il a donné l'ordre de détruire tous ses papiers personnels. Je crois pas qu'il y ait une impossibilité réelle, mais le sentiment que c'était inintéressant. Alors que le bonheur, le malheur et la mort, toujours en simplifiant, ce sont les éléments qui nous concernent tous et sur lesquels on peut être, par lesquels on peut être tous sujets. En plus, il y a bien sûr une fixation de sa part. Enfin, il n'a jamais réussi à sortir de l'enfance. Il n'a jamais réussi à dépasser, on le comprend, le traumatisme de la découverte qu'être juif, c'est mortifère. Et bien entendu, l'approche de la mort, c'est un problème qui se pose pour tous les gens âgés, comme l'ont écrit aussi Jean Amoury, ou Améry, pardon, et Simone de Beauvoir. Quand on arrive à ce moment-là, on réfléchit sur la vieillesse et sur la mort.
Alors, ces œuvres du mois, Anne-Marie Jaton, ont été écrites en deux vagues d'écriture. La première pendant les années d'exil à Londres, 1943-1945, et ensuite pendant les 25 dernières années, disons, de sa vie. Donc il y a une vague avant Belle du Seigneur et puis une vague après. Est-ce qu'on peut l'expliquer d'une façon ou d'une autre ?
Alors la vague avant, comme vous dites, qui n'a pas été vraiment, enfin qui a pas été vraiment publiée, n'est-ce pas, dans le texte comme nous le connaissons aujourd'hui. La vague de Londres, c'est bien sûr lié à des événements extérieurs. La première, c'est la mort de sa mère.
Et il écrit. Qui meurt précisément quand lui est en exil. Lui est à Londres, en exil. Ce qui crée pour lui un sentiment de culpabilité très fort.
Bien sûr, puisqu'elle, elle est à Marseille, où les Allemands sont arrivés au mois de novembre à peu près. Je suis pas sûre de la date, mais enfin bon. Donc, tous les Juifs de Marseille savent que les déportations vont commencer. Et sa mère meurt d'une crise cardiaque en janvier. Donc, c'est clair qu'il y a non seulement c'est un deuil qu'il doit élaborer, mais ça lui crée un sentiment de culpabilité. Lui, il s'est enfui, il est parti, il a laissé sa mère aux mains des nazis.
Donc ça, c'est ça qui crée l'envie de sortir du romanesque pendant un moment pour aller explorer un terrain qui est davantage, encore une fois, réel, enfin, c'est-à-dire autobiographique.
Oui, c'est surtout une volonté de rendre hommage à sa mère, de la faire revivre au-delà de la mort. C'est un tombeau, en quelque sorte. Et le premier tombeau s'appelle « Chant de mort ». Il sera réélaboré, réécrit et publié en 1954.
Oui. Mais lui avait dit assez de romans, il faut passer à autre chose après avoir écrit, c'est vrai, ce texte tellement riche qu'est le cycle Solal. Est-ce que c'est vrai ça pour vous, Anne-Marie Jaton? À un moment donné, il a dit ça suffit le romanesque, il faut passer à quelque chose de plus consistant. De plus,
disons que quand il a dit ça, c'était assez tardivement, si je ne m'abuse.
Il le dit dans Carnet 78.
Voilà, exactement. Donc vous voyez, dans son dernier texte. Effectivement, il est tout à fait possible qu'il ait eu à ce moment-là une volonté de dire ce qui était en lui, de dire ses peurs, de dire ses angoisses, de parler de la mort, de ce qui est toujours pour lui une manière non seulement de parler de lui-même, mais de parler de l'autre, puisque la mort, c'est ce qui est commun à tous les hommes et ce qui devrait conduire à la fraternité. C'est donc un thème qui est plus complexe que le simple fait autobiographique.
Alors, pour terminer sur ces questions d'écriture, de date d'écriture, de réécriture, pourquoi, selon vous, y a-t-il eu beaucoup de reprises des textes? Donc, Chant de mort, c'est le premier livre de ma mère, écrit pendant la guerre et repris des années plus tard. Et vous expliquez qu'en fait, la première version est plus violente et qu'après, ça s'est un petit peu adouci, que c'est plus limpide. Qu'est-ce qui s'est passé finalement entre les deux textes?
Le premier texte, c'est un texte, un cri de douleur. Et par conséquent, il s'est rendu compte que c'était peut-être excessivement personnel, excessivement violent. Donc, il le transforme pour que, il le dit explicitement dans le texte, pour que chacun puisse y reconnaître son rapport avec sa propre mère.
Donc, il s'agit de s'ouvrir aux autres. Exactement. Et de ne pas rester uniquement dans l'analyse de ses propres sentiments.
C'est ce que je pense, oui.
Je vous propose d'écouter justement un premier extrait du livre de ma mère, lu par Guillaume Gallienne.
Pleurer sa mère, c'est pleurer son enfance. L'homme veut son enfance, veut la ravoir. Et s'il aime davantage sa mère à mesure qu'il avance en âge, c'est parce que sa mère, c'est son enfance. Maman de mon enfance, auprès de qui je me sentais au chaud, ses tisanes, jamais plus. Jamais plus son odorante armoire aux piles de linge à la verveine et aux familiales dentelles rassurantes, sa belle armoire de cerisier, que j'ouvrais, qui était mon royaume enfantin, une vallée de calmes merveilles, sombre et fruitée de confitures, aussi réconfortante que l'ombre de la table du salon sous laquelle je me croyais un chef arabe. Jamais plus son trousseau de clés qui sonnaillait au cordon du tablier et qui était sa décoration, son ordre du mérite domestique. Jamais plus son coffret plein d'anciennes bricoles d'argent avec lesquelles je jouais quand j'étais convalescent. Ô meuble disparu de ma mère.
La compagnie des auteurs sur France Culture, à quoi vous fait penser cet extrait qu'on vient d'entendre, Anne-Marie Jaton?
Mais au Nevermore, bien sûr. Au plus jamais, c'est la litanie, n'est-ce pas, qui revient. Et bon, c'est le vert paradis des amours enfantines avec la mère. Et il y a tout un pan de souvenirs qui n'apparaissent pas dans cet extrait, qui sont au contraire ceux sur lesquels Cohen revient le plus souvent, c'est l'amour de la mère pour lui. Donc là, on est dans les objets, dans les souvenirs olfactifs et visibles, mais l'élément essentiel de son rapport avec la mère, c'est tout de même l'amour qu'elle lui portait.
Alors on peut peut-être en dire un mot, parce que cet amour de l'enfant roi, qu'était pour sa mère Albert Cohen, l'a marqué très profondément, probablement psychologiquement aussi. On peut peut-être retrouver l'origine dans le rapport entre la mère et le père, Anne-Marie Jaton.
Oui, probablement. Vous savez, ce que Cohen nous dit, on n'a absolument aucune manière de le vérifier. On sait, comme c'est un inventeur né, comme c'est quelqu'un qui crée des mythes et des légendes, on ne sait pas si le père était tel que Cohen l'a représenté. Mais sa représentation, en tout cas, donc, ne le prenons pas forcément pour des éléments purement autobiographiques, c'est sa perception, donc bien entendu c'est le vécu et ça, c'est ce qui compte, c'est que le père et la mère, le père était un être violent, enfin pas seulement violent, mais violent. Par conséquent, il l'élimine de son existence. Il rêve d'un père qui l'aurait engendré par des mots. Donc c'est le refus, un refus catégorique du père. C'est pas le premier. Belle qui devient Stendhal, Gérard Labruni qui devient Nerval. Lui garde son nom parce que c'est un nom absolument qui descend.
Auquel il tient, oui.
Et auquel il tient beaucoup. Mais il renie complètement le père, quitte à appliquer au père ce qu'il décide d'appliquer à toute l'humanité, c'est-à-dire la pitié. La pitié pour l'homme violent, la pitié pour celui qui bat, qui fait la guerre.
La pitié chrétienne, enfin, non, la pas manière du tout. Chrétienne non, non, non. D'avoir pitié, de tendre l'autre joue.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, au contraire, ça, il le refuse absolument. Il dit que c'est une utopie chrétienne qui n'est jamais appliquée, ce qui est la pure vérité, on le sait tous. Non, c'est simplement c'est plutôt une façon, je pourrais vous citer ce qu'a dit l'autre jour Andrea Camilleri en Italie. Vous savez que le problème de l'autre se pose de façon très, très importante. C'est l'autre, c'est moi dans un miroir, n'est-ce pas? Alors, le miroir, c'est un thème essentiel de Cohen. Et pour lui, il apprend à regarder l'autre dans un miroir et à voir en lui l'être humain qui va mourir. Donc, ça n'a rien de religieux. C'est simplement cette fraternité humaine, toujours, on y revient, dans la mort. Donc il éprouve ce sentiment pour son père et il essaye de trouver les éléments qui le sauvent. Par exemple, sa sensibilité à Dreyfus, il pleure pour Dreyfus, dit-il. Et par conséquent, c'est un homme qui a une partie de bonté qu'il reconnaît.
Mais vous voulez dire en creux que, au départ, pour Albert Cohen, c'est difficile d'envisager vraiment l'autre. Il y a une difficulté.
Absolument.
À comprendre déjà la personne qui est en face de lui, et au-delà de son père, non ? La question de l'empathie, elle est très présente chez Cohen, vous croyez ?
Non. L'essentiel, c'est de respecter l'autre. C'est pas forcément de l'aimer. Non, au contraire. C'est justement ce que Cohen met en cause. Il dit l'amour des chrétiens, donc l'amour du christianisme. Hein, n'est-ce pas ? Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il balaye ça d'un geste. Hein. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible, dit-il. Il précise, il suffit de ne pas le haïr.
Alors, pour revenir aux relations entre la mère et le fils, il y a aussi l'idée peut-être que la mère, ayant été mal mariée avec ce mari violent, elle a reporté tout son amour sur son fils. Et là, c'est une espèce de syndrome de Jocaste, où en gros, le fils a été tellement aimé dans son enfance que ça en est devenu trop. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'envisageable aussi, cette lecture après que l'on peut faire à partir de là de l'œuvre ?
Bien sûr, puisque d'ailleurs lui-même le dit entre les lignes et même parfois explicitement. Il n'est pas le seul à considérer que l'amour excessif d'une mère est en fait une sorte de piège. Si on pense à Romain Gary, dans La promesse de l'aube, dont le titre est significatif, Romain Gary est aussi juif, venu en France, ayant choisi la langue et la culture française comme sa patrie. Et Gary peut-être commente l'attitude, le problème de Cohen de cette manière en disant... avec les mères qui nous aiment beaucoup, la vie nous fait à l'aube des promesses qu'elle ne tient jamais.
Je vous salue, majesté de nos mères, je vous salue, mère pleine de grâce, sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour. Vous aux yeux qui devinent, vous qui savez tout de suite si les méchants nous ont fait de la peine, vous, seuls humains en qui nous puissions avoir confiance et qui jamais, jamais ne nous trahirait, je vous salue, mère, qui pensez à nous sans cesse et jusque dans vos sommeils, mère qui pardonnez toujours et caressez nos fronts de vos mains flétries, mère qui nous attendez, mère qui êtes toujours à la fenêtre pour nous regarder partir, mère qui nous trouvait incomparables et uniques, mère qui ne vous lassait jamais de nous servir et de nous couvrir et de nous border au lit, même si nous avons 40 ans.
même à 40 ans, est bordé au lit par sa mère. La question de l'immaturité du narrateur, allez, disons, du narrateur.
Bien sûr, c'est évident. Il l'assume et il le sait. C'est déjà bien parce que il y a une conscience aiguë de la part de Cohen d'être resté enfant, d'être resté attaché à la figure de la mère, de ne pas réussir à avoir de rapport avec les femmes qui soient aussi satisfaisants que celui qu'il avait avec sa mère. Et on en trouve bien sûr aussi des traces dans le roman. Enfin, la faillite de la passion amoureuse, qui est de toute façon évidente. Il n'y a pas besoin d'avoir une mère pour que la passion s'éteigne. Mais elle est absolument claire. Et donc lui, il le met en scène, il le dit.
Mais il n'y a pas de personnage de mère tellement, enfin, à part la mère d'Eum, mais enfin, qui n'est pas tellement un personnage positif.
En plus, elle n'est pas mère. Elle est mère adoptive, non? Non, il n'y a pas de figure de mère positive. Ça, c'est extrêmement curieux. Alors, dans l'extrait, il y avait justement peut-être la clé de ceci. Il est évident que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cohen aimait sa mère, mais encore plus, la mère aimait. Albert. Et Albert, en réalité, Albert Cohen, le petit et le grand, enfin, 40 ans à 20, avait un sentiment de... Enfin, n'aimait pas que sa mère sache lire en lui. Et donc, il a un sentiment de refus de la mère.
Parce que probablement, elle était tellement envahissante qu'elle cherchait à tout connaître de sa vie.
Oui, non seulement. Enfin, en plus, elle pénétrait dans son âme. Pénétrait dans son âme et dans son cœur. Elle voyait ce que personne ne voyait, peut-être des fois même pas lui. Mmh. Et par conséquent, il lui en voulait de cela. Et toutes les figures maternelles de son œuvre romanesque sont des femmes ou grotesques ou stupides, et surtout qui voient clair dans le cœur de leurs enfants.
Mmh. Donc c'est un état absolument fusionnel. Et quand Albert Cohen pleure sa mère dans le livre de ma mère, c'est surtout lui-même qu'il pleure, au fond.
Oui, il pleure sur la perte qu'il a fait. Il dit « je suis devenu le clochard de l'amour maternel ». Donc c'est lui qui est privé, la mère est privée de vie, mais lui est privé de l'amour maternel. Il ramène tout à lui-même. C'est un narcisse à l'œuvre.
Alors, vous avez cité tout à l'heure Romain Gary, mais dans votre livre, vous pensez aussi à Pérec. Pourtant, c'est vrai qu'on n'a pas tellement, comme ça, spontanément l'intuition de rapprocher Albert Cohen et Pérec, mais c'est sur W que vous faites le lien, W, le livre de Pérec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Oui, alors c'est un lien à contrario. C'est-à-dire que Pérec se pose de façon à dire la biographie, l'autobiographie de l'individu n'est pas importante. Et ce qui est important, c'est l'histoire avec sa grande hache, dit Pérec, bon, en une formule bien connue. Et Cohen se trouve à l'opposé, c'est-à-dire qu'il il utilise les éléments biographiques de son existence, en particulier la rencontre avec l'antisémitisme militant, comme élément qui est symbolique de l'histoire qui va arriver. S'il n'y avait pas eu le colporteur, le camelot, et son antisémitisme, il n'y aurait pas eu les camps de concentration. Donc,
c'est un tout petit pogrom.
Oui, c'est un tout petit pogrom, mais surtout c'est l'origine, multipliée par des millions, de ce qui va conduire aux camps de concentration. Donc il fait d'un élément personnel un élément qui nous conduit à l'histoire. Donc, il fait exactement l'opposé de Pérec. C'est de cela qu'il s'agit.
Enfin, il y a un même point central, d'une certaine façon.
Un même point central, le moi et l'histoire.
Dans le style de ses écrits autobiographiques, et puisqu'on parle surtout du livre de ma mère dans cette première partie, dans celui-là en particulier, on retrouve cette idée du ressassement. Et Albert Cohen est toujours en train de reprendre les mêmes événements et de les raconter un petit peu différemment. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? À quoi ça renvoie?
Alors, Philippe Zarre a déjà dit que ça renvoie justement à une volonté stylistique de reprendre la litanie ou le texte biblique, n'est-ce pas? Alors, c'est exactement ça. C'est un problème à la fois stylistique, un choix stylistique, parce qu'il le fait partout, et en même temps une impossibilité de sortir des thèmes, des mythes qui lui sont chers, qui sont ancrés en lui.
Thank you. compagnie des auteurs sur France Culture. Alors le ressassement, c'est précisément comment mettre sur le papier ces obsessions qu'on a en tête. Et c'est un homme des mots, Albert Cohen. Sa mère aussi était une femme qui aimait les mots et puis qui aimait les histoires. Et il adorait qu'on lui, enfin que sa mère lui raconte des histoires, comme vous le dites très bien dans votre livre Anne-Marie Jaton.
Oui, alors elle lui laissait le matin, lorsqu'elle allait travailler, des petites histoires à côté du café au lait, bien entouré avec des petits dessins également quand il était petit. Et ces histoires se continuaient de jour en jour, et il adorait bien entendu de trouver le matin ces mots. Et puis il a donc un lien autobiographique avec les mots et avec les histoires. Il dit, c'est une citation que je fais par cœur, donc je ne sais pas si elle est exacte. J'étais née sur terre pour écouter les histoires de ma mère, les infinies histoires de ma mère. Donc, ce qui est très intéressant, parce que c'est justement le terme, enfin, les histoires interminables, n'est-ce pas? C'est le fait qu'elles ne finissent jamais, qu'elles peuvent être relancées. C'est cela qui lui plaît. Le fait que tu puisses continuer à les augmenter. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans son œuvre. Il dit à un certain moment, j'ai arrêté d'écrire, j'ai demandé à ma compagne, mais est-ce que je peux en remettre encore un peu? Elle m'a dit non, ça suffit. Mais ce qu'il aimerait, c'est faire proliférer l'œuvre, la faire gonfler de l'intérieur.
Donc c'est la mère finalement qui est l'auteur.
Qui lui a donné l'exemple.
Voilà, c'est ça.
Des histoires interminables.
Et puis qui l'a nourri aussi, qui lui a donné à manger. Et c'est vrai que l'œuvre de Albert Cohen, c'est une œuvre dans laquelle il y a beaucoup à manger. Il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de crème chantilly. Et puis on en rajoute encore une couche. Il y a quelque chose un peu du rapport avec la nourriture presque ici.
Et oui, bien sûr, lui aussi le met bien en évidence. Il dit, il y a deux choses qui nous tiennent en vie, les mots et les mets. Donc pour lui, c'est la même chose. Ce sont des éléments qu'on peut dévorer et dont on peut jouir, enfin, qui nous nourrissent.
Alors, parmi les histoires que sa mère racontait, il y avait aussi des histoires dans lesquelles la répartie était importante. Et vous citez un dialogue entre la mère et le fils sur le ski. Parce que Albert Cohen voulait aller au ski, puis sa mère n'était pas tellement d'accord. Pouvez-vous nous raconter cette histoire ?
Oui, enfin, la mère lui donnait des était terrorisée par le fait qu'il vive dans le monde des gentils, n'est-ce pas? Pour elle, Genève, c'était la Suisse, donc ça allait très bien, c'était un pays merveilleux, mais malheureusement, il y avait des montagnes. Et où les gens avaient l'idée absolument incongrue d'aller sur deux espèces de petits morceaux de bois descendre dans la neige, ce qui était horriblement dangereux, et ils risquaient de se casser une jambe. Donc elle comprenait vraiment pas le ski. En plus, il y avait plein de femmes extrêmement dangereuses qui pouvaient par jalousie vous tuer un fils en deux secondes. Donc elle avait une série de terreurs comme ça qu'elle déversait sur son fils. Qu'il y raconte avec beaucoup d'ironie, enfin avec un peu de distance, enfin avec un certain amusement à l'égard de sa mère.
Il lui répond, il dit, mais même Moïse montait sur le mont Sinaï. Comme quoi la montagne, c'est très bien.
Il dit, oui, mais il est monté une seule fois, répond-elle. C'est arrivé une seule fois, et puis quand même, il avait rendez-vous avec Dieu, donc c'était quand même un petit peu plus important qu'aller faire du ski sur les montagnes au-delà en-dessus de Genève.
Il faut dire, elle ne bougeait pas beaucoup de son appartement. Enfin, elle avait une vie extrêmement seule, solitaire. Elle ne bougeait pas, en fait.
Et elle allait à Genève trouver son fils.
Mais c'était un peu la seule sortie, finalement,
c'était,
de cette femme.
C'était le but de son existence. Elle préparait ça d'année en année. Et lorsqu'elle arrivait à Genève, bien sûr, c'était la grande fête. Elle se promenait au bras de son fils avec beaucoup de fierté.
Alors Anne-Marie Jaton, vous restez avec nous. On va poursuivre cette conversation sur les récits du mois d'Albert Cohen juste après notre chronique du jeudi.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
« chronique du jeudi au cours de laquelle, vous le savez, un grand lecteur vient nous parler depuis son point de vue subjectif de l'auteur dont il est question ici toute la semaine avant de nous présenter une actualité culturelle de son choix. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui, Éric Marty. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, professeur de littérature à l'université Paris Diderot et c'est par Claude Lanzmann que vous souhaitez nous parler aujourd'hui d'Albert Cohen.
Oui, j'ai envie de prolonger ce qui vient d'être dit qui était très
Mais vous
très
pouvez
juste.
Pour commencer évidemment commenter ce qui a été dit dans la première partie.
Oui, c'est ça, oui. Par une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire parler d'une autobiographie sur Albert Cohen, ou en tout cas un passage qui traite d'Albert Cohen. C'est un passage du livre de Patagonie où Lanzmann raconte ses visites.
Donc les mémoires de Lanzmann.
Voilà, ses visites à Albert Cohen en Suisse, à Genève, rue de Krieg, au 7 rue de Krieg. Et c'est très. Enfin, j'aime beaucoup ce passage. Il a un peu comme fil conducteur une phrase de Belle du Seigneur qui est où Albert Cohen parle de cette neurasthénie de l'ordre qui remplace le bonheur. Et en effet, ce que Lanzmann décrit, c'est en effet une neurasthénie de l'ordre. D'abord par la description du bureau d'Albert Cohen, qui est une sorte d'espace tout à fait nu, avec des armoires métalliques, très perfectionnées, avec des tout glisse, tout fonctionne.
Comme
très
le bureau
bien.
D'Adrien Deum à la SDN, peut-être.
peut-être.
Avec des tailles-crayons électriques.
Exactement. Et puis surtout, il y a ce passage extraordinaire où la première demande d'Albert Cohen à Lanzmann, c'est une cigarette. Il n'a pas le droit de fumer parce qu'il est très âgé, ses poumons sont très abîmés. Et donc cette cigarette, Lanzmann lui donne, et il y a un épisode très 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 beau et qui vraiment résume bien, je pense, ce rapport à la mort et à l'ordre qu'Albert Cohen a. C'est la présence de deux cendriers. Mm-hmm. Deux cendriers, il y en a un cendrier tout à fait normal et puis l'autre à pied et à pression. Et malheureusement, Lanzmann, qui a fumé une cigarette, écrase son mégot dans celui qui est normal. Et Albert Cohen est fou, enfin tremble. Et il explique alors qu'en fait, il y a deux cendriers, parce qu'il y a le premier qui est destiné aux cendres, matière noble s'il en fut, et peut-être plus encore pour nous autres juifs, dit Albert Cohen. Le mégot, par contre, qui est pour lui le paradigme de l'ignoble, mm-hmm. doit être dans le cendrier à pression,
pour disparaître.
Il va disparaître. Mmh. Et je trouve que dans cette présence de deux cendriers, il y a quelque chose de très beau. Enfin, c'est vraiment une allégorie de tout ce qu'est Albert Cohen, de tout son rapport justement à ce qui était dit, à savoir sa propre vie et l'histoire, son rapport presque physique aux choses, aux objets, et puis ce goût de la maîtrise du symbolique, en quelque sorte. Capacité à maîtriser l'espace symbolique par cette opposition de deux cendriers qui renvoie en effet à la vie et à la mort et au plaisir interdit. Enfin, on a dans cet espèce d'épisode quelque chose de très beau où Albert Cohen apparaît dans une sorte aussi de solitude assez grande par cette maîtrise complètement presque un peu folle, faut dire. Enfin, en tout cas, par une forme de très grande maîtrise très 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 rigide. Mmh. Du monde, et je trouve ça très très beau. Et puis après, Lanzmann raconte comment l'étape suivante, c'est le moment où Albert Cohen demande à Lanzmann de lui lire ses propres œuvres, où Albert Cohen s'entend lire ses propres œuvres par Lanzmann, et Lanzmann ne voit pas du tout là-dedans quelque chose comme une sorte de vanité critiquable, au contraire, mais peut-être s'y reconnaît-il lui-même. Mmh. Mais il voit au contraire quelque chose de tout à fait normal, parce que c'est un homme de génie, et qu'il a droit justement à cette espèce de d'approbation du monde par rapport à son œuvre.
Alors, on sait que Lanzmann plaçait très très haut Belle du Seigneur. Oui. J'ai quand même envie de vous demander, vous personnellement, Éric Marty, votre rapport avec cette œuvre-là, dont on sait que peut-être qu'aujourd'hui, elle est moins appréciée dans l'université qu'elle ne l'a été au moment de sa apparition et puis dans les années peut-être 80-90. Il y a comme une espèce de retour, un peu de flamme sur Albert Cohen, non ?
Oui, c'est un peu frappant de voir qu'il est très absent, et que son œuvre n'est pas très lue, elle n'est même pas vraiment bien visible. C'est-à-dire que, bon, il y a Belle du Seigneur qui existe, mais l'image de Albert Cohen est très confuse, très très lointaine.
On ne sait pas où le mettre aussi.
On ne sait pas où le mettre. Et puis donc, il y a quelques spécialistes, comme ceux que vous avez reçus, comme Maxime Decoux, Schaffner, etc. Mais c'est vrai, moi-même, je ne suis pas d'ailleurs un grand lecteur d'Albert Cohen. J'aime beaucoup Belle du Seigneur, évidemment, mais j'attends d'être à la retraite pour lire son œuvre. J'attends d'avoir du temps. On a besoin de temps pour lire son œuvre. Et Et pour l'instant, le temps me manque, et donc j'attends un petit peu, mais j'ai moi-même ce regard un petit peu confus sur Albert Cohen, c'est vrai.
Alors, deuxième partie de votre chronique, Eric Marty, avec une sélection d'actualités culturelles. Vous vouliez nous parler d'un livre qui vient de paraître au Seuil, ça s'appelle « Par les écrans du monde », et c'est le roman de Fanny Taillandier.
Oui, alors j'ai bien aimé ce roman parce que c'est un roman autour du 11 septembre, mais justement, ce n'est pas un roman fresque, ce n'est pas un roman énorme, c'est un roman assez bref, et surtout qui est très, très, d'une très grande clarté, quoique son sujet principal soit le chaos. Et c'est ça qui est très réussi, c'est donc, ça commence par une scène très belle, je trouve, c'est un père qui envoie à ses deux enfants un message téléphonique, lui disant qu'il allait mourir, qu'il va mourir. Et ces deux enfants vont être les deux protagonistes un petit peu du récit, qui sont tous les deux en quelque sorte aux premières loges de l'événement. Et tous les deux, leur univers professionnel et leur existence même va être précisément lié à cette idée de chaos comme fait du monde occidental. Mmh. Et ça, c'est très bien pensé. Ce qui est deuxième point qui me touche beaucoup, c'est la manière dont la fiction est introduite dans le réel. C'est une chose qu'on a beaucoup critiquée, qu'on mêle la fiction. Et là, c'est très bien, je trouve ça très bien fait, y compris même quand la fiction touche aux terroristes eux-mêmes, puisque Mohamed Atta est l'un des protagonistes dont des récits d'enfance sont proposés. Bref, je trouve que c'est un roman d'une très grande clarté, d'une très grande limpidité sur un objet qui mérite justement cette clarté.
Par les écrans du monde, Fanny Taillandier, c'est au Seuil. Merci beaucoup Eric Marty, à bientôt. La compagnie des auteurs sur France Culture, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain Albert Cohen. Nous sommes avec Anne-Marie Jaton pour évoquer bien les ouvrages autobiographiques de cet écrivain. Et après le livre de ma mère, nous en venons plus particulièrement à « Ô vous, frères humains », dont voici tout de suite un extrait.
« Voyez-les en leur guerre se tuer les uns les autres depuis des siècles, se tuer abondamment malgré leur loi d'amour du prochain, loi qui est d'ailleurs de ma race. » Inscrite en premier dans le Lévitique au chapitre 19, verset 18. Voyez-les, ces singes rusés. Voyez-les depuis des siècles avec successivement leurs flèches, leurs haches, leurs francisques, leurs lances, leurs piques, leurs hallebardes, leurs arbalètes, leurs javelots, leurs framées, leurs masses d'armes, leurs marteaux d'armes, leurs nobles épées, les petits salauds, leurs arquebuses, leurs mousquets, leurs fusils, leurs baïonnettes troueuses de ventre, leurs canons, leurs mitrailleuses, chéries de leur odieuse progéniture inutilement gavée de vitamines, leurs torpilles, leurs bombes à billes, leurs bombes au napalm, leurs gaz innervants, leurs chères bombes thermonucléaires, leurs vénérées bombes super sales au cobalt, leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins à tête multiple, leurs fusées intercontinentales à charge mégatonique, leurs missiles sol-sol et sol-air et mer-sol et bientôt lune-terre et délice et fierté, leurs missiles antimissiles à tête chercheuse. Telle est leur voix, telle est leur folie.
Alors, on a dit tout à l'heure, Anne-Marie Jaton, que ce deuxième livre autobiographique, c'était celui du rapport, finalement, avec la persécution des Juifs en général, et puis peut-être la sienne aussi en particulier, même s'il y a quand même une volonté de s'élever au niveau de l'humain. C'est un livre de colère, vous diriez ça aussi ?
Oui, bien sûr. C'est un livre qui est un appel... livre de colère, mais qui ne reste pas simplement un cri de colère, comme par exemple les œuvres de Céline, qui est à l'opposé, bien entendu. Mais des fois, les opposés peuvent servir à éclairer une œuvre. C'est une œuvre qui veut être en colère contre la fausse morale chrétienne qui n'est pas mise en œuvre, donc une dénonciation d'une morale chrétienne qui est d'ailleurs d'origine juive en grande partie, mais qui simplement sert de façade.
Il assimile les deux pensées de ces deux religions-là.
Oui. Il dit, par exemple, que le thème de l'amour du prochain est déjà dans le Lévitique, que par conséquent, il y a une continuité de pensée. Mais le christianisme, bien sûr, a insisté sur la notion d'amour, puisque le christianisme est fondé sur l'amour de Dieu, qui deviendra ensuite l'exaltation de l'amour au Moyen-Âge, et puis qui se laïcisera, bien sûr, qui deviendra laïque. Mais ce qui l'irrite profondément, c'est que la culture occidentale en général, non pas qu'il croit que l'autre est bien meilleur, hein, elle a des défauts elle aussi, mais que la culture occidentale se cache derrière la morale chrétienne et se contente d'affirmer qu'il faut aimer l'autre, qu'on aime. Enfin, la parole amour, elle a la parole amour à la bouche, et puis au contraire, ce qui se passe, c'est justement la prolifération des armes qu'on vient d'entendre.
Pour revenir un tout petit peu au livre de ma mère, la morale de la mère d'Albert Cohen était très forte, mais quelle était cette morale? Est-ce que c'était ce type-là de morale chrétienne, ou est-ce que c'était...
Non,
notre morale.
C'est la morale des dix commandements, justement de Moïse qui est monté sur la montagne une fois pour toutes. Et puis il y a les dix commandements. Alors elle a d'une part.
Et ça suffit en fait.
Ça suffit simplement. En plus, Cohen dit que c'est sa mère qui déclare que c'est Moïse qui l'a inventé et non pas Dieu. Là on ne sait pas vraiment si Cohen ne fait pas une projection ou pas. Enfin, c'est donc une morale laïque, une morale de l'humanisme, si vous voulez, d'un humanisme qui peut très bien être laïque. Il suffirait d'appliquer les dix commandements, indépendamment de notre propre religion ou athéisme, pour que le monde aille mieux. Donc la mère lui communique, dit-il, cette morale, qui est d'origine biblique, d'accord, mais qui est valable en fait au plan universel.
Alors dans Au vous, frères humains, il souligne que, évidemment, les êtres humains ne sont pas égaux ni par leur religion, ni par leur droit. Lui-même en a fait évidemment l'expérience. Et puis, il considère que finalement, le plus grand crime de l'homme, c'est d'être né. Il y a quelque chose d'extrêmement pessimiste aussi dans cet ouvrage, Anne-Marie Jaton.
Oui, alors c'est un thème aussi un thème d'époque. C'est la grande crise de Schopenhauer assurant, disons celle de la naissance, n'est-ce pas, le crime de la naissance, parce que en fait chez Cohen l'origine est la fameuse scène de l'antisémitisme. Si je suis un sale juif, un youpin, si je ne devrais pas vivre, ben, moraux juif, un enfant l'intériorise littéralement. Enfin, je devrais mourir. Alors il vaudrait mieux ne pas être né. Dans le cas de Cohen, donc c'est pas aussi philosophique que chez Siron ou Schopenhauer, c'est vraiment à partir d'une expérience vécue.
Donc ça veut dire qu'il y a une tentation du suicide?
Absolument,
chez
absolument.
Cohen.
Absolument, il raconte que tout enfant, on croit que les enfants n'ont jamais la tentation du suicide, ce qui est absolument faux. Un enfant qui tout d'un coup voit son univers de bonheur s'effondrer, voit le refus, la violence s'installer dans son existence, comprend que la violence existe, parce que c'est pas seulement l'épisode en soi, c'est ce que ça ouvre, n'est-ce pas? C'est l'univers que ça ouvre. Un univers de refus, de violence, d'étrangeté. Tu es un autre, retourne à Jérusalem. Tu n'appartiens pas à la France, alors qu'il avait un sentiment extrêmement fort d'appartenance et qu'il aimait la France. Donc c'est un rejet. Et un rejet qui est lié à son identité.
On a du mal, évidemment, à ne pas penser à l'actualité au sens large. Vous travaillez à Pise, en Italie, où ces problèmes doivent se poser, étant donné la nature du nouveau gouvernement. Et puis aussi, vous évoquez Luz, le dessinateur, qui a réchappé à la tuerie de Charlie Hebdo, travaillé pour Charlie Hebdo, et qui a dessiné justement au vous, frères humains. Comment tout cela résonne aujourd'hui?
Je pense que ça rend Albert Cohen un écrivain absolument actuel, qui pose exactement les problèmes de notre société. Le problème de la rupture avec une morale religieuse, qui rien n'est venu en réalité remplacer véritablement. Il n'y a pas de réflexion sur le rapport avec l'autre. Il n'y a pas de réflexion sur qui est l'autre.
Il y a une morale religieuse qui est devenue parfois un extrémisme de cette morale-là. Enfin, une morale où on ne retrouve plus finalement le sens morale elle-même.
Le sens originel de l'amour de l'autre, enfin, ou de l'acceptation, simplement, il suffirait. Cohen, justement, souligne bien ce fait, hein, il n'est pas nécessaire de l'aimer. pas nécessaire de l'adorer, il suffit de ne pas le haïr, de ne pas le détester, de réussir à le regarder comme dans un miroir en pensant que c'est quelqu'un comme toi qui est destiné à mourir. C'est tout, c'est vraiment, Cohen le répète, partout et toujours, et il de cette morale qui pour lui se résume à ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, il tire des sentiments de pardon, par exemple à l'égard des de tous ceux qui ont poursuivi les Juifs, mais même du Camelot lui-même. Il arrive dans son grand âge à dire pauvre Camelot qui avait besoin d'un pauvre enfant pour croire qu'il existait.
Je crois que parfois, un génie de la littérature est une sorte de fou qui a assez d'intelligence et de ruse pour dissimuler et utiliser sa folie. Ce que je crois aussi, c'est que dans le génie, il y a un mariage miraculeux des contraires. Le génie, c'est avoir le cœur plein d'amour et l'œil méchant. Le génie, c'est entre autres être à la fois une douce femme qui a peur, un enfant plein de foi, qui admire trop et que la société n'a pas détruit, mais aussi un lucide vieillard sans espoir et mécréant, un étalon sensuel et surtout, surtout, un fou de la sensibilité qui sent trop, qui sent follement, qui est constamment prêt à la douleur absolue pour tout, à la joie absolue pour tout, qui souffre presque autant de ne pas retrouver ses clés que d'avoir perdu sa femme, qui éprouve autant de joie paradisiaque à retrouver son stylo qu'à voir revenir à lui la bien-aimée qu'il avait abandonnée. Oui, bien sûr, j'exagère, mais c'est pour dire une vérité incroyable. Autre mariage des contraires, ce fou de la sensibilité vit avec un sage et insensible, son double et jumeau, qui prend note olympiennement de tous les ouragans du fou, impassiblement voit tout, détaché, l'œil froid et implacable. Ainsi, ce fou du cœur, qui à tout instant de sa vie éprouve cet immense émoi que l'homme normal ne connaît que deux ou trois fois dans sa vie, par exemple lorsque sa mère meurt ou lorsque celle qu'il aime en secret répond soudain à son amour, ce fou du cœur, redis-je, est en même temps un impassible et perspicace spectateur de ses propres émois et folies. Bref, présence à la fois de Dionysos et d'Apollon.
Ce mariage miraculeux des contraires dont il est question ici, dans Carnet 78, le troisième livre des œuvres autobiographiques d'Albert Cohen, eh bien, c'est cette expression que vous avez reprise, Anne-Marie Jaton, pour votre livre. C'est pour ça qu'on le diffuse aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi précisément cette expression-là ?
Parce qu'elle montre bien que Cohen est un écrivain des extrêmes. L'extrait que vous venez de passer est absolument clair à cet égard et se retrouve dans son écriture. Dans Belle du Seigneur, il y a exactement cela, c'est-à-dire l'exaltation de la passion et la destruction et l'ostentation de l'impossibilité de la passion. Donc ce sont toujours ces contraires qui sont présents à l'intérieur des œuvres de l'écriture qui finissent quand même par s'unir en un tout qui fait sens.
Mais ce sont des contraires qui donnent une impression aussi un peu d'hystérie quand il dit le génie au fond c'est celui qui est aussi désespéré ou presque de pas trouver sa cravate et d'avoir perdu sa femme. Alors bon, on sent qu'il y a une légère évidemment exagération et en même temps on sent qu'il y a quand même un fond de vrai dans ce qu'il dit là. Et c'est presque un petit peu étrange quand même, comme manière de voir les choses.
Alors d'abord, il dit lui-même, j'exagère.
Bien sûr, il dit ça, mais il le dit quand
même. Grâce au ciel, oui, mais il dit, mais c'est quand même comme ça que je le vis. C'est le problème des narcisses, c'est le problème du narcissisme pathologique. Et là, je crois qu'on est obligé de faire un petit détour par la psychologie et de constater que Cohen était un narcissiste pathologique.
Et donc, l'œuvre de Cohen, c'est une œuvre de narcisse pathologique.
Oui, parce que le narcissisme pathologique ne fait pas que du mal, ça fait aussi justement, ça crée aussi des œuvres extrêmes. Mais l'affirmation qu'on vient d'entendre est, elle, plus pathologique que littérairement intéressante.
Alors, Carnet 78, C'est le troisième des ouvrages autobiographiques. C'est l'ouvrage qui ouvre sur la mort, sur la vieillesse d'abord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement de son rapport aux années qui passent et à la tombe qui lui fait signe?
Alors justement, le problème de la vieillesse, que la façon dont Cohen traite la vieillesse, c'est celle justement de continuer à considérer que l'enfance est présente à l'intérieur de la vieillesse. Et c'est cet aspect-là qui est peut-être le plus original par rapport aux autres œuvres sur la vieillesse qu'on connaît, parce qu'il n'arrive pas, c'est Peter Pan, n'est-ce pas, qui n'arrive absolument pas à vieillir, qui sait bien qu'il est désormais un vieillard, mais qui continue à être et à vouloir être obstinément l'enfant qu'il était. Alors, d'un côté, cette attitude lui permet de conserver une certaine fraîcheur d'esprit et de conserver l'esprit de l'enfance qui lui permet d'écrire de façon vivante et pas comme un morne vieillard qui ressasse ses souvenirs dans sa petite chambre.
Il écrit « Il y a la gloire des débuts où les amants ont chaque soir des joies de découvertes toujours nouvelles, mais les pauvres humains ne peuvent pas être toujours en exaltation de passion. » Donc on retrouve tous les thèmes qu'il n'a jamais dépassés finalement. C'est ça qui est assez terrible d'une certaine manière. Dans ce dernier livre, on retrouve tous les thèmes de l'œuvre, et notamment ce thème de la passion.
Exactement. La seule chose nouvelle, la reprise justement des mythes dont on a parlé précédemment, des éléments centraux de son œuvre, de sa vie, c'est le fait que la mort s'approche. Il y a un moment dans la vie de chacun de nous où cette idée qu'on connaît abstraitement, qu'on sait bien qu'elle est là, mais où elle commence à devenir vrai, enfin on la sent différemment. Alors Cohen a écrit de très belles pages là-dessus. Le sentiment, vraiment maintenant, je sais, ça y est, ça va arriver. C'est plus seulement l'abstraction d'un moment inévitable.
Est-ce que les femmes restent l'antidote tout de même à la mort pour Albert Cohen jusqu'au bout? La perspective d'un amour quand même, pour retrouver peut-être l'amour maternel?
Alors là, les choses se confondent parce qu'on doit passer à la biographie, à l'autobiographie, celle qui n'est pas écrite, ce qu'on sait de sa dernière compagne avec laquelle il avait, paraît-il, des rapports assez orageux.
Ils n'habitaient pas dans la même pièce, en tout cas de l'appartement, cas, oui, et lui ne souhaitait pas tellement aller se promener de son côté à elle de l'appartement.
Exactement, mais je crois qu'en même temps, il avait besoin d'une femme qui l'admire, qui l'écoute, qui l'aide. Oui. Mais là, on sort de l'œuvre.
Hein. Alors revenons-y. Toutes les femmes chez Albert Cohen, toutes ces héroïnes commencent par un A. Et ça, vous l'avez noté. Pour quelle raison?
Oui, je suis pas la première à l'avoir noté, mais disons que l'interprétation donnée à ce choix, c'est que la femme est l'alpha pour lui, n'est-ce pas? Moi, je pense qu'elle est aussi Albert, qu'elle est en fait le miroir de la partie féminine de Cohen.
Je voudrais terminer par une citation de ce carnet 78, ou même peut-être par deux citations, puis je vais vous demander de les commenter librement. N'est-il pas absurde que nous venions sur cette terre pour y vivre un temps court, plein de jalousie, de médisance, de haine, de guerre? Car si mortels que nous soyons, nous sommes méchants. Et l'homme, en son bref temps de vie, dont il ne sait jamais qu'il est bref, est méchant pour l'homme. Et chaque siècle, il y a trois ou quatre guerres où les hommes, futurs cadavres, s'entretuent, pis que fourmis ou hyènes. Anne-Marie Jaton.
Oui, c'est ce dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. La dénonciation de l'absurdité de notre comportement humain, l'absurdité de la force, de la violence, de la guerre, de l'incapacité d'accepter les autres tels qu'ils sont, puisque de toute façon, la vie n'a strictement aucun autre sens que celle de la mort qui nous attend.
Et la deuxième citation, elle est extraite de « Ô vous, frères humains !» Et il écrit « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d'immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêtés à Nice, gazés à Auschwitz. Jamais je ne pourrai parler à un de la nation enragée. » Jamais je ne pourrai retourner au pays de la nation enragée et entendre leur langue, la même qu'à Auschwitz. Il y a assez peu, on l'a vu cette semaine, de références directes à la Shoah chez Albert Cohen. Là, il y en a une ici. Et puis, il y a quand même la difficulté de pardonner tout de même, contrairement à ce que on a dit tout à l'heure, et notamment le pardon qu'il accorde in fine au Camelot. Il y a une difficulté à pardonner quand même au peuple qui a autorisé d'une manière ou d'une autre, enfin en tout cas pour certains de ses membres, cette horreur absolue, Anne-Marie Jaton.
Oui, alors il pourrait pardonner une personne, mais pas un mouvement entier, pas le nazisme, ou pas une nation entière, qui sait. Et je crois qu'il est important de le condamner sans nécessairement ensuite condamner une personne particulière de la Shoah. Alors là, revenons juste une seconde sur l'absence de la Shoah dans son œuvre. Bon, son œuvre, comme on le sait, a été écrite jusqu'en 1938.
Oui, plutôt avant la guerre.
Alors, c'est vrai que Belle du Seigneur a publié en 68, mais c'est une reprise et une réécriture du texte précédent. Par conséquent, la Shoah n'avait pas sa place à l'intérieur du texte. Et puis, c'est un événement aussi tellement terrifiant, tellement indicible, qu'on ne peut pas le dire. Et il y a beaucoup même de témoins, d'écrivains qui ont vécu la Shoah, qui ont eu des difficultés énormes à la raconter. Mais effectivement, alors apparemment, il y a une apparente contradiction, vous pensez, entre cette condamnation d'un entier mouvement, d'un refus. Ce qu'il refuse, c'est le refus de l'autre. Mmh. Et ça, il faut continuer à le refuser.
Merci beaucoup, Anne-Marie Jaton. Pour aller plus loin, je recommande votre livre, Albert Cohen, Le mariage miraculeux des contraires, paru l'an dernier aux presses polytechniques et universitaires romandes. Cette émission a été rendue possible par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Théo Gomard. Demain, vous retrouvez Manou Farine pour une compagnie des poètes consacrée aux sentiments de la route. Et lundi, on se retrouve autour des mémoires de guerre de Winston Churchill et de Charles de Gaulle, quelques jours avant le centenaire du 11 novembre 1918. Tout de suite, c'est la poésie, Jacques Bonafé.
Loin, très loin des grands textes, l'envie de me mettre à quatre pattes, comme un vieux chien, pour le plaisir de m'ébrouer après le poème. La poésie n'est pas ça ni ça, elle ne soulage de rien, elle ne remue pas la queue, manquerait plus que ça. Il faudrait l'imprimer sur les boîtes pour chiens, ou comme le réclamait Perros, sur le papier toilette. Alors continuons avec les produits ménagers, la boîte de sardines à l'huile. Ça, c'est dans des proses qui manquent d'élévation. Même en penchant la boîte de sardines à l'extrême, le rebord retiendra toujours un peu d'huile et j'en aurai plein les doigts. Il faut donc prendre un morceau de pain afin d'éponger le restant sans se couper. Qu'on se rassure, je ne vais pas comparer ma vie à une boîte de sardines, ni la vie de la boîte à la mienne. Elle est cycle de la vie, méthode de connaissance, destinée probable. La boîte où résidaient tête bêche les sardines est vide à présent. Je l'abandonne dans l'évier. Le silence m'ordonne de me taire. Et alors ce poème, La route de nuit, je me souviens plus ce que ça dit. À peine ai-je fini ma demi-page que j'ai le dégoût de l'avoir écrite. La prose mal vécue résonne comme un chaudron fêlé. Garder un œil sur la laideur du monde. Peut-être qu'en appuyant sur les subjonctifs, je pourrais m'engager dans l'insincérité. Et on retourne aux mauvaises langues. Oui encore, je ne me suis jamais baigné deux fois dans le même fleuve. Parce qu'il n'y avait pas de fleuve. Et parce que je ne sais pas nager. Voici le Styx, voici le Mississippi. Pour entreprendre la traversée, il faut d'abord croire à ce qu'on va trouver de l'autre côté. On se fait une idée exagérée de la mort. Elle obéit à la nécessité. La poésie est simple comme la mort, avec des complications inutiles. Ici, là, dans la respiration, on pourrait glisser un petit chambreton. Elle a vécu de pain beurre et d'aspiration à la sainteté. On ne devrait pas dire cela de sa tante célibataire, mais je suis sûr qu'elle aussi eut un jour une belle poitrine. on peut tomber en dévotion et avoir de beaux seins. Toute sa vie, elle fut la tante combattante, interdite d'amour. Son hectare de terre résumait le monde. Ses yeux suivaient jusqu'au bout deux idées à la fois. Elle était devenue vieille, elle ne se lavait plus et s'était mise à puer. Sa sœur était sa seule amie. Les deux n'eurent jamais honte de parler breton toute la journée. Dans un monde qui n'était pas de cocagne, elle n'était pas à vendre. Et ça, c'est titré Penarval. C'est pas comme ça qu'on le dit. Penarval.
Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisiez toute la semaine des textes de Paul Kenegg.